Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 9h30 ici à Paris, 10h30 à Moroni.
Xavier Besson.
Et des témoignages à la une ce matin, des Comores qui fêtent ce dimanche le cinquantenaire de leur indépendance en 1975. Souvenir d'une grande joie à l'époque à Moroni, même si cette indépendance, beaucoup continuent de trouver qu'elle est incomplète sans l'île de Mayotte qui, elle, est restée française. Dans ce journal également, reportage au Gabon hier pour la création à Libreville du nouveau parti politique du président Oligui Nguema. Le Fonds monétaire international, le FMI, qui estime que la RDC est sur de bons rails, mais qui s'inquiète du poids financier du conflit dans l'Est congolais. Nous serons aussi au Cameroun, où les opérations d'enrôlement sont en train de prendre fin en vue de l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports, Victor Missistrano, viendra nous parler du début hier de la CAN féminine. Match nul en ouverture, 2 buts partout entre le Maroc et la Zambie. Rendez-vous est donné aujourd'hui au stade Malouzini, à Moroni, aux Comores, donc tous les 6 juillet. C'est la fête de l'indépendance et cette année la fête sera encore plus grande puisqu'il s'agit du 50e anniversaire de cette indépendance acquise par référendum en 1974 et effective l'année d'après, sauf pour Mayotte, la 4e île de l'archipel qui est restée française. Ce matin, l'ancien ambassadeur Ahmed Mohamed Tabit témoigne de l'ambiance d'euphorie du 6 juillet 1975.
Moi, je faisais partie d'un parti qui s'appelle PASOKO, qui réclamait et qui mobilisait, qui sensibilisait la population pour l'indépendance. Donc, quand on a appris que Mme Abdallah allait déclarer l'indépendance, la Chambre des députés, avec enthousiasme, nous sommes allés là-bas. On n'était pas sûr que Mme Abdallah vraiment allait défier la puissance coloniale française et déclarer l'indépendance. La Chambre des députés ne pouvait pas contenir tout le monde. Beaucoup de gens étaient à l'extérieur et toute la place était envahie de gens. Vraiment, c'est l'euphorie. Tout le monde est très content. Les gens criaient ourou, ourou, ourou. Vous voulez dire indépendance, 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 indépendance. Mais cette satisfaction est un peu éphémère. Parce que tout de suite après la déclaration unilatérale d'indépendance, la France reconnaît l'indépendance des trois îles, mais on garde Mayotte. La déclaration unilatérale d'indépendance des Comores a été accueillie par toute l'Afrique.
Et par les Nations Unies.
Et par les Nations Unies.
Le retour de Mayotte, ça reste un combat.
C'est un combat. Tous les Comoriens, ils veulent absolument que Mayotte réintègre.
L'ancien ambassadeur comorien Ahmed Mohamed Tabit au micro de David Baché et sur RFI.fr. Vous pouvez retrouver une série de reportages de notre envoyé spécial consacré à ce cinquantenaire de l'indépendance des Comores. Il faut chercher Reportage Afrique.
RFI à Libreville, 104 FM.
L'Union démocratique des bâtisseurs initiales, UDB, c'est donc le dernier né des partis politiques au Gabon, parti de l'actuel chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. La naissance officielle a eu lieu hier, samedi donc, au cours d'une assemblée générale constitutive, devant plus de 10 000 personnes rassemblées au Palais des Sports. Et malgré une forte présence d'anciens cadres du Parti démocratique gabonais, la formation de l'ancien président Ali Bongo, le chef de l'État assure que son parti prône la rupture avec les vieilles pratiques. À Libreville, le reportage d'Yves-Laurent Goma.
Dans un discours d'une demi-heure, Brice Clotaire Oligui Nguema a décliné l'identité de son parti qu'il dit sociodémocrate. Ses militants s'appellent donc démocrates bâtisseurs, auteurs du coup d'État qui a mis fin à 56 ans de règne sans partage du PDG, le parti des Bongo. Oligui Nguema a averti que l'UDB ne sera pas une machine de confiscation du pouvoir.
Je ne souhaite pas créer un parti électoraliste qui instrumentalise les élections. Je souhaite avoir un parti qui m'accompagne et non un outil politique qui va être un gouffre dans lequel je dois monnayer des majorités ou des consensus.
Les proches d'Oligui Nguema saluent la naissance de ce parti.
C'est une bonne chose pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema d'avoir ce outil politique. C'est une bonne chose.
Créer ce parti ne fait que renforcer le processus démocratique dans notre pays.
Très nombreux dans le palais des sports, les jeunes sont plutôt sceptiques.
Si on retrouve encore tous les cas du PDG encore dans son parti, bon, comme tout le monde dit, c'est un PDG bis.
Beaucoup de gens sont venus nous mettre beaucoup d'espoir, mais au final, rien.
Le parti devait présenter des candidats aux élections législatives et locales prévues dans 6 mois si le ministère de l'Intérieur lui délivre toutes les autorisations. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
260 millions de dollars pour la République démocratique du Congo. Des fonds que le FMI a accepté de verser cette semaine, considérant que Kinshasa a réussi la première évaluation du programme convenu entre la RDC et le Fonds monétaire international l'an dernier. Passe pour cette fois donc, mais le FMI s'inquiète du coût de la guerre dans l'est du pays contre les rebelles de la FCM23. Impact sur les finances congolaises. Patient Ligodi.
Le FMI reconnaît la bonne performance de la RDC dans la collecte de recettes. Mais malgré cela, les finances publiques ont enregistré un déficit plus important que prévu. Calixte Aoposi, chef de mission du FMI pour la RDC, explique.
Le critère avait été fixé à environ 522 milliards de francs congolais, c'est-à-dire à peu près 200 millions de déficit. Mais en réalisation, ce qui s'est passé, les recettes ont tenu, mais les dépenses ont été plus larges que prévu. Donc du coup, le déficit s'est creusé et s'est fixé à environ 600 millions de dollars.
Face à cette situation, le gouvernement congolais a revu son budget. Il a adopté un collectif budgétaire pour s'ajuster à la conjoncture. Objectif, rendre le budget plus réaliste. Pour préserver les équilibres et rediriger les investissements vers les secteurs porteurs, le FMI insiste sur la nécessité de mettre en œuvre l'accord de paix signé à Washington le 27 juin dernier.
Le Fonds monétaire international espère que cet accord va apporter une paix véritable pour permettre à la RDC et à ses voisins de se tourner résolument vers leurs objectifs de développement.
Dans cette logique, le Qatar et les États-Unis appellent Kinshasa et la FCM23 à signer dans les prochains jours à Doha un accord complémentaire à celui de Washington.
Patient Ligodi. À Kinshasa, il est 8h36, même heure à Yaoundé au Cameroun, où il ne reste plus beaucoup de temps pour s'inscrire sur les listes électorales en vue de la prochaine élection présidentielle. À partir de la semaine prochaine, tout peut s'enchaîner rapidement. La convocation du corps électoral, le dépôt des dossiers de candidature, ensuite la campagne et l'élection qui est prévue au mois d'octobre. Alors pour être sûr que tous ceux qui le souhaitent et qui sont autorisés puissent prendre part au scrutin, la commission électorale et les CAM et des organisations de la société civile tiennent des points d'enrôlement et de sensibilisation. Reportage de Richard Onanena.
Centre de santé, marché, carrefour, à quelques jours de la clôture du processus d'inscription, les agents de l'ECAM occupent le terrain. Au quartier briqueterie à Yaoundé, leur présence a motivé Moussa à s'inscrire sur les listes électorales.
Aujourd'hui, après la prière, nous allons pouvoir nous inscrire pour voter parce que c'est la chose la plus importante à faire.
Sur le terrain, plusieurs initiatives accompagnent le processus d'inscription. Cyril Roland Béchon a initié une plateforme qui relaie les différents lieux d'inscription auprès des futurs électeurs.
Nous avons travaillé avec l'ECAM pour obtenir le planning des descentes pour les inscriptions de proximité. Nous informons les animateurs de proximité. Nous essayons de partager au maximum pour informer les populations.
De leur côté, les mouvements citoyens, cartes d'électeurs et protège ton vote font actuellement le tour du pays pour sensibiliser les jeunes sur les questions électorales.
La campagne porte effectivement sur l'inscription massive sur les listes électorales. Le deuxième point, c'est que les gens récupèrent effectivement leur carte d'électeur. Le troisième point, c'est que les gens aillent massivement voter. Et le quatrième point, c'est que les gens s'engagent à surveiller leur vote.
D'après les dispositions en cours, le corps électoral devra être convoqué au plus tard le 12 juillet. Ensuite, le dépôt les candidatures devraient se faire jusqu'au 22 juillet pour des élections prévues en octobre. Richard Onanina, Yaoundé, RFI.
Dans l'actualité des pays africains ce matin également, ces condamnations au Togo de personnes qui ont pris part la semaine dernière aux manifestations contre le régime de Fornia Simbé. 19 de ces personnes ont été condamnées à un mois de prison ferme et 11 autres mois avec sursis. Les rassemblements n'étaient pas autorisés et ces personnes ont été reconnues coupables de troubles aggravés à l'ordre public. Accaparement de terres, dégradation de l'environnement et violences sexuelles. La liste des griefs est longue contre la société luxembourgeoise Socfin, société financière des caoutchoucs. Une enquête internationale confirme sa responsabilité dans des cas d'abus dénoncés par des communautés sur le continent africain et en Asie ces deux dernières années. Précision et explication avec Igor Strauss.
Les investigations menées par le cabinet Earthworm Foundation dans 12 des plantations de la société financière des caoutchoucs en Afrique et en Asie ont révélé que la majorité des dénonciations contre Socfim et ses filiales étaient fondées ou partiellement fondées. Au total, 139 plaintes ont été déposées par les communautés travaillant dans les plantations de palmiers à huile et d'EVA au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Nigeria et en Sierra Leone. Critiqué pour sa gestion controversée de ses plantations à travers le monde, Sogfilm a commandé des enquêtes à Earthworm Foundation en 2023 pour vérifier les allégations à son encontre. Deux ans plus tard, le verdict est tombé et a confirmé ses accusations, ce qui a conduit Sogfilm à créer des plans d'action pour lutter contre ces différents abus. Mais le 1er juillet de cette année, 33 organisations de défense de la nature et des droits humains ont publié un communiqué déplorant l'absence d'implication des communautés victimes dans l'élaboration de ces plans. Pour les ONG, c'est aux communautés de suivre la mise en œuvre des plans élaborés par Sogfilm. Enfin, elles exhortent la holding luxembourgeoise d'aller plus loin et plus vite.
Enfin, c'est un secteur plein de promesses, d'emplois notamment, mais aussi de rayonnement culturel. Au Maroc s'achève aujourd'hui un grand salon consacré aux jeux vidéo, industrie pour laquelle le Maroc nourrit de grandes ambitions. Reportage de Mathias Reynal.
Des robots distributeurs de bouteilles d'eau, une décoration futuriste, tout en néon. Au Palais des Sports de Rabat, le jeu vidéo marocain veut se présenter sous son meilleur jour.
C'est une industrie qui grandit rapidement au Maroc. On aura bientôt de nombreux jeux vidéo marocains qui battront des records.
Le royaume mise sur les jeunes créateurs indépendants comme Marwan, 23 ans pour faire naître cette industrie.
J'ai commencé à développer des jeux il y a 5 ans en autodidacte. Maintenant, je veux créer mon propre studio de production.
À 40 ans, Rachid Lansari vient justement de passer de créateur de jeux amateur à patron de la start-up Kelbox.
C'est à travers notre culture qu'on pourrait avoir une identité vidéoludique internationale. C'est comme ça qu'on pourra s'exporter ailleurs. Et c'est comme ça qu'on aura vraiment du soft power concret, tangible. Le Maroc est en train de se placer comme leader, comme vrai hub africain.
Depuis quelques mois, le ministère marocain de la culture s'active pour structurer davantage le secteur. Mathias Reynal, de retour de Rabat, RFI.
À Rabat, au Maroc, il est maintenant 8h42 et vous êtes avec Pierre Boudias. C'est la suite des RFI Matin.